Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.
À la une des quatre colonnes cette semaine, l'impôt sur la fortune immobilière. Le retour. Avec le comeback de l'ISF à l'Assemblée nationale, un nouveau vent favorable souffle sur la fiscalité immobilière. Et le sujet alimente déjà de nombreuses discussions chez les fiscalistes. Alors qu'Emmanuel Macron avait transformé durant l'hiver 2017 l'ISF en IFI, c'est-à-dire en impôt sur la fortune immobilière, une grande majorité de députés ont en fait adopté fin octobre un amendement au PLF 2026, déposé par le député MoDem des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Paul Mattei. Son principe ? Il est simple. Il élargit cette fois-ci l'assiette de l'IFI à certains placements financiers et bien meublés. Au lieu d'un barème progressif, allant jusqu'à aujourd'hui de 0,5 à 1,5%, le taux d'imposition serait désormais fixé à 1,5% et s'appliquerait dès lors que le patrimoine dépasserait les 2 millions d'euros. Si ce nouvel impôt survit à la copie finale du budget, seront donc concernés par l'amendement de Mattei tous les actifs immobiliers productifs, les sommes, rentes ou valeurs d'assurance vie, ainsi que les liquidités et placements financiers, les fameuses crypto-monnaies, ou encore les biens meubles et corporels comme les jets privés, les voitures de luxe, les bijoux, mais aussi les œuvres d'art, jusqu'à présent exonérées d'ISF. Malgré tout, le 31 octobre au soir, l'amendement Mattei a rencontré quelques écueils avec l'adoption du sous-amendement du député socialiste Philippe Brun visant, lui, à abaisser les 2 millions à 1,3 million d'euros le seuil d'entrée de cette contribution. Écoutons Jean-Paul Mattei, député du groupe MoDem des Pyrénées-Atlantiques et notaire de profession. Il sait de quoi il parle.
Ah non, c'est certainement pas un nouvel impôt sur la fortune immobilière. C'est plutôt, je dirais, une réponse à une forme d'interrogation au moment où, en 2017, il était décidé de faire évoluer, parce qu'on ne peut pas parler de suppression de l'impôt sur la fortune, simplement de le limiter aux biens immobiliers. C'est pour ça qu'on a parlé d'impôt sur la fortune immobilière. Et moi, ce qui m'avait interpellé à l'époque, c'est que on avait l'air de stigmatiser l'investissement immobilier par rapport à d'autres investissements. L'impôt sur la fortune avait un défaut, c'est qu'il englobait parfois le patrimoine professionnel, notamment pour les non-dirigeants. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'il s'appliquait à l'ensemble du patrimoine, à l'exception des œuvres d'art, ce qui peut être une nouveauté par rapport à l'impôt sur la fortune non productive. Et il englobait par contre des actifs professionnels pour des gens qui étaient associés mais pas dirigeants de l'entreprise et qui posaient une difficulté de périmètre. Et le paradoxe a voulu, c'est que on a voulu inclure dans ce nouvel IFI, y compris des biens loués pour de l'habitation. Et moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est que je considère qu'un investissement pour loger des personnes, et même l'investissement tout court dans l'immobilier de location à long terme, on peut se poser des questions sur le Airbnb et autres, était également un investissement dans du patrimoine productif, puisque ça fait travailler des personnes, tout un cycle de personnes, et on a une forme de sanction forte pour l'immobilier. Je vous rappelle que l'immobilier est à la fois soumis aux taxes foncières, aux fonciers bâtis, il a un régime au type des revenus fonciers qui peut paraître assez confiscatoire puisque nous sommes au barème, même si on a des systèmes de micro et autres, mais ça n'empêche que si on n'est pas dans ce cadre-là, les revenus fonciers sont taxés à une tranche marginale de 45% plus 4% aux revenus, plus les contributions sociales, plus l'IFI, vous imaginez que ça devient effectivement assez confiscatoire. Et je vois pas pourquoi on crée deux régimes. Donc voilà, donc est-ce que c'est un nouvel impôt que j'ai proposé ? L'idée, c'était de dire, on exclut bien évidemment le patrimoine professionnel sous toutes ses formes, Un euro investi dans l'entreprise, soit directement, soit y compris via des contrats de placement, de contrats d'assurance vie, ne rentre pas dans l'assiette. Par contre, tout patrimoine qui n'a pas d'activité en tant que tel serait incorporé dans l'assiette. Alors, on a un sujet sur les œuvres d'art, j'entends, à la limite, les œuvres d'art qui seraient à disposition du public pour avoir un sort autre, parce qu'elles relèvent de l'intérêt général. Même les collectionneurs de voitures, s'ils permettent à des gens de pouvoir bénéficier cette chance de voir de belles voitures quelques mois par an, ça pourrait évidemment faire l'objet d'exonération ou d'abattement. L'idée, c'est que moi j'en ai marre qu'on stigmatise l'investissement immobilier. On se rend bien compte que ça a un rôle d'aménagement du territoire. C'est des activités qui ne sont pas délocalisables. Et aujourd'hui, quand on voit, notamment avec les lois sur le ZAN et autres, la réduction des surfaces, on voit qu'on a une logique à inviter les gens à investir dans l'immobilier plutôt que dans d'autres placements. C'est pas être contre l'assurance, c'est simplement dire rééquilibrons par rapport à l'avantage fiscal que peut avoir tel et tel investissement.
Le Parti Socialiste reproche justement à cet impôt un rendement incertain. Que leur répondez-vous ?
Oui, de toute façon, tous les impôts ont des rendements incertains. Il n'y a pas que celui-là. On l'a bien vu d'ailleurs il y a 2 ans avec quelques surprises sur la taxe inframarginale sur les entreprises d'énergie. On a vu ce que ça donnait, ça n'a rien donné de ce qu'on escomptait. Donc il faut être très modeste sur la rentabilité. Je pense que ça peut avoir un rendement, mais c'est aussi un traitement. Vous savez, la fiscalité, ce n'est pas que des rendements, c'est aussi inciter les gens à aller dans tel et tel secteur d'activité. C'est ce que j'appelle, moi, la fiscalité comportementale. Donc je pense que j'ai voulu marquer un coup d'arrêt en disant non, l'immobilier n'est pas une rente, espèce d'investissement improductif, c'est pas vrai. Ça aussi une vertu. Voilà. Donc mes collègues socialistes s'interrogent sur le rendement. Moi aussi, j'ai pas de certitude. Maintenant, je pense qu'on avance. L'immobilier de loisirs pour soi-même resterait taxable. On aurait un taux beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Et je rappelle que l'entrée dans cet impôt, c'est plus du tout le même seuil. Enfin, ce que j'avais porté initialement, c'était à partir de 2 millions d'euros qu'on commençait à être taxé. Ce qui n'était pas le cas avant, puisque à partir de 800 000 euros, vous étiez susceptible de... Enfin, à partir d'1,3 million, vous rentriez dans l'impôt sur la fortune immobilière et vous étiez taxé à partir de 800 000 euros.
Voilà. Philippe Bruno, président du Cercle des fiscalistes, s'interroge sur l'articulation de cet impôt avec la taxe sur les holdings familiales votée à l'Assemblée nationale. Que lui répondez-vous ?
Non, mais c'est, il a raison de s'interroger. Je crois que la taxe sur les holdings familiales, je regrette, ce fameux article 3, était écarté ou dénaturé un peu trop rapidement. Je pense qu'il y avait une piste intéressante, à la fois pour éviter les excès, tout en privilégiant les holdings, qui sont des outils très intéressants pour le développement de l'entreprise. Je regrette qu'on n'ait pas eu un débat sur le fond. On a eu un amendement, notamment du rapporteur, qui a en quelque sorte dénaturé l'esprit dans lequel était fait ce texte. On ne va pas juxtaposer des dispositifs. C'est vrai que si on avait adopté les holdings, peut-être que l'impôt sur la fortune non productive aurait été moins pertinent, parce que c'est un impôt sur les stocks. Sur l'impôt sur la holding, c'est plus un impôt qui allie à la fois les stocks et les flux, puisqu'il inciterait là aussi, au titre du comportement, les gens à distribuer plus facilement l'argent dont ils n'ont pas besoin pour le développement de l'entreprise. Voilà, c'est l'esprit de cet article 3, c'était de dire cet argent qui est encapsulé en quelque sorte dans les holdings, s'il n'est pas réinvesti, ben, on peut se poser la question pourquoi il n'est pas distribué et qui fait tourner l'économie. On a besoin aussi d'argent qui fait tourner l'économie. C'est de la consommation. C'est un peu l'esprit aussi, je dirais, de l'impôt sur la fortune non productive. Entre générations, on incitera des gens à donner plus facilement à leurs enfants et donc faire tourner la machine de l'économie, consommer la TVA et autres. Voilà. Il faut qu'il y ait des flux qui tournent. Là, on a une fiscalité qui est parfois incitative à conserver et à être un peu passive.
Quelles sont les chances pour que cet amendement soit définitivement adopté ?
Écoutez, on va voir. L'article 3 dénaturé sur les holdings resterait normalement dans la navette. Cet impôt sur la fortune improductive qui a été dénaturé par les sous-amendements. Mais bon, je pense que l'amendement sur la résidence principale n'est pas du tout idiot. Le sous-amendement qui prévoyait d'exonérer, d'enlever de l'assiette jusqu'à 1 million d'euros la résidence principale ou la résidence unique, une petite différence, peut aller dans le bon sens. Maintenant, on va travailler avec nos collègues sénateurs et on verra ce qu'elle sera le texte à l'issue de la commission mixte paritaire. Je vous rappelle qu'on essaie d'adopter un budget, qu'on essaie de trouver des équilibres et qu'on veut emporter avec nous des collègues qui ne pensent pas tous pareil. On a une majorité qui est complètement fracturée. Il faudra que chacun fasse un pas. Bon, OK, on ne va pas faire un pas en faisant n'importe quoi, mais je pense que chacun devra faire un pas et on verra si on a une commission mixte paritaire qui permet d'avoir un texte acceptable. Et je dirais, peut-être pas pour un vote, mais qu'à la fin des fins, je dis bien à la fin des fins, un 49-3 qui ne serait pas proposé par le gouvernement. Le gouvernement s'est engagé qu'il n'y ait pas de 49-3, mais que les députés, conscients qu'ils sont prêts à s'abstenir pour ne pas voter une censure, mais ils ne sont pas prêts à voter, trouveraient pas anormal, à leur demande, je dis bien, qu'on déclenche un 49-3 sur ce sujet.
Alors que les sénateurs souhaitent réduire les dépenses publiques et limiter les hausses d'impôts dès le démarrage des débats, une question désormais se pose. Quel sort sera réservé à ces sous-amendements par la Chambre haute ? Il faudra attendre le 25 novembre pour voir des premiers éléments de réponse.
Les quatre colonnes, la chronique qui décrypte l'actu sur Radio Immo.